C'est en compagnie de vous, Pascal Ferrari, que nous poursuivons les échanges grâce à Martine et Marinette. Bonjour Martine et Marinette.
Et bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour Pascal. On vous a un peu découvert la semaine dernière. Vous nous avez un peu expliqué votre parcours de vie, votre enfance, votre arrivée à Pouillastruc, votre bac du côté de Tarbes et puis la fac à Toulouse. Et on en était resté que vous avez donné des cours et ça vous a pas du tout plus. Rappelez-nous comment vous, cette faune, vous avez...
Elle observait la faune.
La oui, faune, une faune...
Imprévisible, quoi. Ouais. Une faune en cage, quoi. Une faune...
Et on parle des élèves. Voilà.
Dégénérée, je dirais, ou... parce que je parlerai pas de pulsion animale, j'imagine. Non, je veux pas mal parler des animaux comme ça, non.
Ils se comporteraient pas comme ça, je pense.
Non, ou alors en cage, c'est le problème de
Et
la cage.
Voilà, c'est le problème de la cage, de l'enfermement.
Ouais. De la meute. Bon. De la fin d'autre
ça
chose.
Oui.
De la fin d'autre chose. Des enfants qui préféreraient courir, quoi.
Bien sûr.
Voilà.
On vous découvre, on rentre un peu dans votre intimité. Pascal Ferrari, merci de nous en faire profiter. Alors, nous en sommes aux études. Et aux études, comme ça doit se faire depuis des années et des années, on fait des rencontres. Et vous avez rencontré votre mari.
Oui.
Votre mari, qui lui aussi donc, avait une orientation pour être professeur.
Voilà, et en histoire de l'art, on faisait des fouilles archéologiques en Italie du Sud.
Avec lui, de temps en temps. Voilà. Il est devenu votre mari. Avec lui, vous avez eu 3 enfants.
Ouais.
Et vous l'avez un peu détourné de l'enseignement pour l'orienter vers l'artistique, puisqu'il est devenu musicien.
Oui, je lui ai fait écouter juste un morceau d'accordéon et une semaine après, un accordéon est arrivé entre ses mains. Puis voilà, il n'a plus jamais quitté, quoi.
Mmh.
Voilà.
Et du coup, vous avez décidé de partir, de tout plaquer et de partir d'aventure par cet art qui est la musique.
Voilà, je ne sais même pas si ça relève d'une décision de cet ordre-là, tout plaquer. On n'avait pas grand-chose à plaquer non plus, mais c'est vrai qu'on était attirés par les rôles.
Oui, mais ne serait-ce que ta famille. Enfin, je veux dire, ce n'est pas facile.
Oui.
Bon,
mais la famille, mais bon, lui aussi faisait.
À tes parents, etc. Mais je m'en vais, oui, tu lâches tout. Enfin, je pense que tous les gens qu'on a rencontrés jusqu'ici, il y a toujours un moment où la famille, soit elle adhère, soit elle repousse, quoi.
Ouais, tu sais, depuis l'adolescence, j'ai jamais été dans le programme, dans le programme de ma
famille. T'étais le vilain canard.
On me disait qu'il fallait que je sois correcte et on me traitait toujours d'insolente. Donc il y a toujours ce mot d'insolente qui revenait. Donc peut-être c'est ça qui a créé mon identité. Mais merci. Ça m'a permis de toujours être en traverse comme ça. Hein.
Mmh,
Et donc finalement, je ne les ai pas déçus parce qu'ils en attendaient pas moins de moi, pas plus de moi. Donc,
on est parti sur des routes.
Avec un camion, voilà. Sa famille, son frère était musicien aussi, donc ils ont commencé en famille comme ça. On est parti en famille. J'étais la femme, puis j'ai commencé à avoir un enfant de 2, 3. Donc j'étais la femme avec les 3 enfants. Et il fallait assurer le quotidien sur la route. Donc, on a joué aux gitans, quoi. Hein, chercher où dormir chaque soir. On s'est réinventé cette identité-là, qui est très poétique en soi. Il y a une espèce de mystère autour de la vie de bohème. Hein. Donc, eux, ils jouaient de la musique dans la rue. Ils gagnaient 3 sous. Avec 1 sou, on achetait une pizza qui ne coûtait rien. Moi, je complétais
en Italie.
Mmh. Voilà.
Quel accueil est réservé à cette vie de bohème en Italie?
Bon, à l'époque, on pouvait dormir encore un peu n'importe où. C'était un camion, pas grand-chose. On avait le matin parfois la surprise d'avoir un carabinier. Vous savez, les carabiniers aériens qui arrivaient. Mais bon, c'était pas méchant, ça relevait un peu de la comédie, quoi. Il fallait se faire voir, avoir peut-être une... Des fois, ils avaient des mitraillettes aussi, hein. Vous savez, ils aiment bien ça, les Italiens.
D'accord.
Ils voyaient un camion, bon, avec des dessins dessus. Ils arrêtaient avec des mitraillettes. Ça, c'est le folklore italien, ça.
D'accord.
Mais ça donne un peu de piquant, quoi, à l'aventure.
Mais c'était quoi? C'est des contrôles?
Ouais, voilà, des contrôles d'identité.
Ils vous laissaient repartir
Ou à la limite, ils nous poussaient pour repartir un peu. Si on s'était par hasard, si on était bien installé dans un joli endroit où il y avait des murs à ramasser, une jolie rivière, il y avait des figues. Bon, il fallait, c'était trop facile, quelque part trop confortable. Un carabinier arrivait, il fallait aller trouver autre chose. Voilà. Donc, dans ce sens, ils avaient leur rôle aussi.
Combien ça a duré, cette vie?
Je ne sais pas, ça ne se mesure pas. 3 enfants, peut-être 10 ans. Mais... Puis après, ça s'est un petit peu installé parce que lui, il est devenu intermittent du spectacle. Donc, du coup, il y avait aussi des contrats à donc assurer.
Là, on revient en France,
exactement,
là.
Exactement. Dans des salles. Il a trouvé son producteur en Italie, dans la rue. Harmonia Mundi, c'était l'harmonie du monde, justement. Donc, et donc, des disques. Donc, voilà, on est devenu un peu embourgeoisé du truc.
C'est vrai?
Oui.
Et là, vous êtes arrêté quelque part? Vous avez fixé vos bagages?
Ouais, ouais.
Un appartement, une maison?
Ouais. Oui, appartement, puis finalement la maison du grand-père qui est mort à Tarbes. C'était comme un lieu d'indien, c'est-à-dire un jardin au milieu des immeubles qu'avait construit d'ailleurs le grand-père, qui était un Italien immigré, arrivé à faire 3 sous avec des porcheries industrielles, enfin bon bref, qui avait... Et finalement, qui a trouvé plus rentable de construire des immeubles plutôt que de s'occuper des cochons. Mais il restait quand même un petit bout de jardin avec quelques moutons. Et de temps en temps, les moutons s'échappaient sur les ronds-points. Les policiers les ramenaient.
Puis, à Tarbes.
Oui, oui, à Tarbes, le rond-point à Sainte-Anne, au Prado derrière. Et puis, finalement, ce jardin-là, moi, je me suis occupée de ce jardin. D'abord à la manière du grand-père, dans le sillon du grand-père, avec tous ces principes de culture au cordeau, etc. Et puis très vite, je me suis aperçue que, dis donc, il y avait beaucoup plus de choses qui poussaient autour des sillons que dans le sillon, vu que la terre était hyper usée.
Début de la permaculture.
Et c'est le début de
la cueillette.
De la cueillette au potager.
Voilà. Cueilli,
de la cueillette au potager, c'est différent. Tandis que c'est vrai qu'en Italie, tous les pourpiers, etc., mais c'était voilà, des choses plus visibles en Italie. Là, dans un potager, c'est des plantes que j'ignorais, qui poussait, ça m'a quand même interpellée. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi?
Voilà. Ce qu'on nous appelle des fois les mauvaises herbes, ça vous avait fait réagir, ça?
Oui, oui, mais sans même les nommer, quoi. J'ai trouvé ça, voilà, ça poussait plus en dehors que...
Donc là, vous n'aviez aucune connaissance, là?
Non, non.
Rien, zéro?
Non, non, zéro connaissance.
Quand on voit l'atelier que vous faisiez, mais vous connaissez ça par cœur, au bout des doigts, aujourd'hui.
Mais vous savez, en Italie, j'ai toujours une espèce de confiance, quoi. Hein. J'ai le pourpied... je me suis acheté des livres, hein, quand même. Hein. Mais cueillir de quoi nourrir ma petite troupe, c'était assez excitant aussi, que ce soit gratuit et abondant à ce point. Alors les fruits, on connaît, en Italie, il y en a des fruits. Hein. Après, il y avait des pourpiers, puis il suffit d'interroger les gens avec 2-3 mots en italien. Hein, c'est une plante grasse. Maintenant que tout le monde connaît Philippe,
on en met dans les salades, bon.
Et maintenant on en cultive. Voilà, il y a toutes les sortes de pourpiers. Oui, c'est une plante grasse, juteuse, croustillante. En cette saison, de la même famille, il y a les fameux nombrils de Vénus, vous savez, qui poussent sur les pierres comme des nénuphars.
Ça, on en avait parlé, oui. Voilà, vous avez même fait des salades avec.
Voilà, et qui sert aussi quand on s'est trompé de plante, c'est un peu un antidote. Donc c'est intéressant que j'ai commencé par le pourpier, parce que finalement c'était l'antidote de toutes mes possibles erreurs, sachant qu'on ne meurt pas des plantes. On peut être nauséeux, on peut être malade des plantes, mais on ne meurt pas. On peut se suicider avec les plantes.
Mais... Ça dépend de la quantité, peut-être,
voilà,
que tu
ingurgites. Voilà, il y a tellement de...
C'est pas parce qu'on va manger un petit truc comme ça qu'on va...
Non, non, puis il y a tellement de clapets de sécurité, l'amertume, enfin bon...
Oui,
le vomissement, etc. Oui. Donc il faut vraiment le vouloir, quoi. Donc j'ai eu cette confiance-là. Puis après, il y a eu des rencontres. J'ai rencontré dans un stage de vannerie sauvage auquel je n'ai pas pu participer. Bon, ce n'est pas grave, on m'a dit, tiens, je suis sûre que ça t'intéresserait. La personne est venue à domicile me voir, une espèce de druide aux grands cheveux blancs. Puis il a commencé à vivre avec nous dans les bambous du jardin dont je vous parlais. Il s'était fait une raquette en vannerie, il dormait là l'hiver, il ressortait avec la barbe givrée. Et il a commencé à me montrer les plantes sauvages des villes, de la ville de Tarbes en l'occurrence. Voilà. Et puis voilà, je ne sais pas comment vous dire. Et ben, ensuite, un Israélien s'est arrêté là par hasard, échappé du Mossad soi-disant, ou alors fou, et qui m'a appris à faucher ce fameux champ. Et à chaque fois qu'il fauchait, il me disait, non, mais ça, tu vois, ça se mange, ça aussi. Voilà. Donc c'est venu comme ça. Et puis, vous savez, j'ai toujours aimé les livres. Donc, les livres ont été des bons compagnons, des voix. Mais ne pas commencer par les livres, c'est un peu comme quand on commence pas la musique avec le solfège. On n'est pas prisonnier de la partition. Et moi, je vois mon mari, il a commencé la musique à l'oreille et non pas au conservatoire. Et c'est cette même liberté. Ensuite, il a appris pour aller plus loin.
Oui.
Mais commencer par là, c'est une façon de pas être enfermé, quoi.
D'accord.
Il me semble.
Donc là, vous restez quelques années sur Tarbes.
Oui.
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 Quelques
beaucoup
années.
Je me demande comment, mais je sais comment finalement. C'est parce que j'ai réussi à trouver des îlots sauvages graciés, quoi, et qui avaient d'autant plus d'intérêt et d'intensité qu'ils étaient rares, en fait. C'est comme des îlots d'Indiens. Je pense à une petite presqu'île là, vers le parc de l'Échaise, à des endroits. Mais très vite, c'est comme le mauvais œil. Il me semblait que dès que je m'intéressais à un lieu, un promoteur s'y intéressait aussi, qui installait un lotissement. Donc à chaque fois, il fallait aller un peu plus loin ou trouver autre chose. Puis il y a eu la coulée verte, vous savez, le long de la Dour, le Camino Dour. Intéressant ça, hein, il y a toujours des choses au bord des rivières. Où j'ai commencé à emmener des bourgeoises qui voulaient s'encanailler un peu, sortir du foyer, cueillir de quoi pimenter leur vie. Et puis des SDF aussi. Je travaillais avec des SDF, travaillais entre guillemets. Hein. Les SDF, les emmener dans la ville et leur montrer qu'on pouvait aussi ne pas dépendre des boîtes. Et puis à se donner l'illusion qu'on pouvait encore être autonome, retrouver cette liberté.
Pourquoi vous dites cette illusion ?
Parce qu'on ne peut pas non plus se nourrir que de plantes à notre époque.
Vous l'avez fait pourtant, pendant un certain temps.
Ah, et de pizza.
Ah, de pizza quand même.
Non, il ne s'agit pas d'être radical non plus. Il s'agit d'être en harmonie avec son temps. Et puis, il y a une telle abondance de nourriture tout autour, de nourriture très racoleuse. Mais la joie de... quand même de cueillir soi-même de quoi se nourrir, ça c'est quelque chose qu'on trouve pas dans l'achat.
On parlera un petit peu aussi parce que ça c'est votre décision de vie, mais vous avez trois enfants, vous les avez éduqués comme ça, des enfants qui grandissent, qui voient leurs camarades, qui ont sûrement des, voilà, l'histoire des marques. Dans les écoles, c'est compliqué. Même les enfants qui sont issus de familles pauvres, tannent leurs parents pour leur acheter des marques qui coûtent les yeux de la tête. Et certains se saignent, hein, ou font des crédits à la consommation pour pouvoir habiller leur enfant de façon normale, entre parenthèses. Je ne sais pas s'il y a une normalité. Comment vous l'avez vécu, tout ça? Et ça serait intéressant de découvrir un peu ça la semaine prochaine avec vous. Puis votre départ de Tarbes pour les montagnes. Puisque moi, quand je vous ai connu, vous étiez dans une ferme. Et puis, ces ateliers que vous proposiez ici ou là. Et puis, votre arrivée à la DMR, puisque ça aussi, c'est un nouveau challenge. C'est le nouveau challenge de Pascal Ferrari. Ça, c'est dans l'actualité. Un sacré changement. Vous découvrez, entre parenthèses, les joies du monde salarié. Et même, je me demande si vous ne culpabilisez pas d'avoir des congés payés. Alors ça va peut-être en faire bondir plus d'un. Hein. Martine et Marinette, on en a rigolé un petit peu quand on préparait cet entretien. Vous trouvez surprenant qu'il soit possible d'avoir des vacances et en étant payé?
Quand j'ai appris ça.
Quand j'ai appris ça, il n'y a pas longtemps.
Non, c'est vrai que j'étais émerveillée. J'ai pris ça comme un cadeau. J'étais un miracle. Voilà, c'est ça, exactement, avoir des congés sans culpabilité.
Ce qui est étonnant, c'est votre niveau de culture. On est surpris par ce niveau de culture. On ne peut pas vous amuser. Hein. On ne peut pas prendre un mot si ce n'est pas le bon mot. Vous reprenez souvent les personnes en disant, c'est pas ce bon mot. Vous avez un niveau intellectuel très...
Non, de langue, vous voulez dire. De langue, parce que j'aime les mots.
De tout. On sent qu'il y a du concret. Et à la fois... on pourrait dire, c'est bien sûr les livres, mais c'est l'école de la vie qui vous l'a enseigné. Et donc on peut aussi des fois sortir des cursus scolaires et pas avoir raté sa vie parce qu'on sort sans diplôme.
Tout à fait.
Et ça, c'est peut-être aussi pour des gens qui nous écoutent. Oui. On peut s'en sortir. Il suffit de le vouloir. Mmh. Et surtout, quand on aime quelque chose, on ne l'étudie pas, on se fait plaisir.
Oui.
Je pense que quand vous avez étudié les plantes, pour une autre personne, ça serait quelque chose de rébarbatif parce que ce n'est pas sa tasse de thé. Alors que vous, vous avez excellé de le faire, hein, d'apprendre.
Oui, puis surtout, je n'avais pas de projet spécial. Donc du coup, voilà, on en parlait, je n'ai pas non plus de frustration parce que je ne vais pas au bout d'un projet. Voilà, je n'ai pas été prof, mais j'en suis plutôt heureuse. Voilà.
Ouais. C'est vrai que c'est dommage que ça soit pas télévisé, parce que filmé, parce que les gens verraient que Pascal est quelqu'un de très épanoui.
Mmh. Oui,
et ça rejoint ce que dit Philippe. On peut effectivement, actuellement dans notre société, c'est ça, la norme.
Il faut rentrer dans une
les
case.
Études. Et si on n'est pas comme ça, alors déjà, on n'est pas bien épanoui dans les têtes, dans la tête du commun, des mortels. Et puis, ben voilà, qu'est-ce que c'est cette espèce de machin complètement en dehors de la plaque, en dehors des clous, qui vit comment, qui... Et Pascal, c'est une leçon de vie.
Exactement, c'est une parce leçon qu'elle va, de vie. Elle va interpeller à plein d'endroits l'être, les êtres.
C'est clair. Dans les CV, on en parlera dans les prochaines émissions. On va se dire au revoir et on se dit à la semaine prochaine.
D'accord, allez, à la semaine prochaine.